When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour les gens. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de matinale. Faut que je me réhabitue au truc. Hop, hop, hop. En plus, on a plein de sujets cool. Pour le coup, j'avais un peu peur ce matin. J'ai l'impression que l'actualité était plus calme. Et en fait, on a pas mal de trucs dont on peut parler. Donc c'est cool. C'est cool parce qu'il y a eu pas mal d'actualités hier soir, en fait, en vrai. Donc c'est bien. Voilà. Et merci pour les follow d'ailleurs. Il y a encore des gens qui nous ont follow depuis le dernier live de hier après-midi. Donc merci à vous. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous follow. On est de plus en plus nombreux sur les lives, donc c'est cool. Lançons-nous tout de suite. Voilà. On va parler. On va commencer par l'IA. Deux petites annonces autour de l'IA. Ça continue d'être le truc dont tout le monde parle. Ah oui, j'ai encore oublié un truc. Kassim. Réfléchis un peu. Du coup, plein de sujets autour de l'IA, parce que ça continue d'être le truc dont tout le monde parle dans la tech. Et donc, par exemple, Microsoft, alors c'est Microsoft Allemagne, qui a annoncé comme ça, au détour d'un petit événement en Allemagne autour de l'IA, il y a un des responsables, un des cadres de Microsoft Allemagne, qui a lâché l'annonce que, dès la semaine prochaine, on aurait une présentation de GPT-4 par OpenAI. Donc, il faut savoir que Microsoft et OpenAI sont très proches en termes de partenariat. Microsoft a investi énormément d'argent dans OpenAI. Ils ont une exclusivité sur pas mal de choses autour de l'IA. Donc, c'est vraiment des partenaires rapprochés. Donc, ils connaissent les plans, la feuille de route de chacun l'un de l'autre. Et donc, OpenAI devrait dévoiler GPT-4 dès la semaine prochaine. Alors c'est quoi GPT, c'est quoi GPT-4, 3, tout ça? C'est tout simplement le modèle de données utilisé par toutes les IA dont on n'arrête pas d'entendre parler. Par exemple, quand vous avez des images qui sont générées par DALL-E ou quand vous dialoguez avec ChatGPT, bah derrière cette interface qui vous sert de dialogue et qui vous renvoie des images, du texte et à qui vous parlez, derrière tout ça, il y a un modèle de données, donc c'est vraiment le cœur de l'IA, on va dire. Et jusqu'à présent, depuis 2020, on était basé sur GPT-3. Avec ChatGPT, on avait une version un peu intermédiaire qui avait quelques améliorations, mais ça restait quand même une base GPT-3. Et là, dès la semaine prochaine, a priori, on passerait à GPT-4, donc une mise à jour d'un modèle. Voilà, on passe de 2020 à 2023. Et donc pendant 3 ans, ils ont travaillé sur cette nouvelle version. Et on ne connaît pas encore vraiment les nouveautés. On imagine qu'elle sera plus puissante, qu'elle sera plus rapide aussi pour répondre aux questions des gens, mais il y aura aussi peut-être des nouvelles fonctionnalités. Et le cadre, donc c'est Andreas Braun, cadre donc chez Microsoft Allemagne, qui a aussi teasé peut-être l'une des nouveautés. Il parle de... Donc la semaine prochaine, nous présenterons le GPT-4 qui proposera des modèles multimodaux offrant des possibilités totalement différentes, par exemple des vidéos. Alors c'est pas très détaillé pour l'instant, et il faut bien prendre en compte que c'est Microsoft Allemagne qui annonce ça et pas Microsoft US, donc pas le QG de Microsoft, donc c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes quand c'est une filiale d'un géant de la tech comme ça, parce que ils sont pas forcément toujours au courant de tout, c'est compliqué d'être complètement concluant sur quelque chose qu'une filiale a déclaré. C'est plus propre quand c'est Microsoft Corp, donc la version américaine, le QG de Microsoft, qui annonce les choses. Donc je voulais dire que oui, il tease donc le caractère multimodal et les vidéos. Ce que ça veut dire, c'est la capacité. En fait, aujourd'hui, quand on parle à GPT, on lui parle exclusivement à travers du texte. Donc c'est pour ça que, par exemple, ChatGPT, c'est à l'écrit. DALL-E, vous allez lui envoyer aussi une requête à l'écrit. Et tout ça, voilà, va fonctionner comme ça. Là, avec la recherche multimodale, il y aurait la possibilité de lui faire rentrer autre chose, de l'audio, de l'image, de la vidéo. Par exemple, la capacité à faire un résumé d'une vidéo, la capacité de lui parler directement à l'audio, une capacité à traiter, en tout cas, des contenus autres que du texte. C'est vrai que c'est un problème aujourd'hui. On peut pas, par exemple, lui donner... Enfin, c'est compliqué avec les IA en ce moment. Pour l'instant, elles sont pas totalement performantes quand on leur donne des choses en entrée, type une image, de l'audio, etc. En général, en fait, ça passe par... Par exemple, si on essaye de parler à l'audio, à Bing ou à ChatGPT, en fait, il y a un moteur derrière de traduction de votre parole en texte écrit. Et après, ce texte écrit est envoyé à l'IA. Là, voilà, on aurait quelque chose de plus multimodal. C'est aussi quelque chose sur lequel Google travaillait énormément. Google qui utilise son propre modèle avec DALL-E... comment s'appelle-t-il ? Avec Lambda, voilà. Avec Lambda, Google a son propre modèle et Google bosse beaucoup aussi sur le multimodal. C'est ce qui est le plus important comme prochain échelon dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'idée de... Coucou Wendico. C'est l'idée de pouvoir mixer... un moteur Lambda, évidemment. C'est l'idée de pouvoir mixer ensemble plusieurs sources, donc... mélanger du texte, de l'audio, de la vidéo, de l'image, pour avoir des requêtes plus performantes, pour mieux comprendre les choses. Moi, j'imagine bien la possibilité, par exemple, de résumer une vidéo YouTube ou une conférence sur YouTube, ou la possibilité de retrouver un moment précis d'une vidéo. Retrouver tel moment d'une série, d'un jeu, d'une analyse, d'un truc, d'un podcast, d'une rubrique, et demander à l'IA directement de me dire à quelle minute se trouve ce moment. Et en fait, l'IA va être capable de lire la vidéo et de la comprendre, et donc de pouvoir me repérer ce moment. Donc ça, c'est pour l'annonce de GPT-4. Mais du coup, on en saura plus la semaine prochaine. Donc on verra exactement, ils pourront détailler qu'est-ce que ça va permettre de faire. Mais c'est vrai que ça va être quelque chose d'assez attendu. Aujourd'hui, l'IA est sur toutes les bouches. C'est exactement ce que permet déjà de faire Google Lens avec les images, effectivement. Mais là, voilà, propulsé par un truc sans doute beaucoup plus performant. Donc bref, ça va être un des gros enjeux de 2023. Et GPT-4 est quand même attendu depuis de nombreux mois. C'est entouré de rumeurs, mais il n'y a pas grand-chose de très précis en termes de fuite ou d'informations. Donc ça va vraiment être intéressant de regarder la semaine prochaine comment ils vont annoncer tout ça, si c'est bien annoncé dans la semaine prochaine. Encore une fois, l'info vient de Microsoft Allemagne. On aurait aimé que ce soit plutôt Microsoft US qui lâche l'info pour être vraiment sûr en termes de crédibilité. Voilà pour Microsoft, mais on va continuer à parler un peu d'IA. C'est une news 2 en 1. On va parler de Discord. Il faut savoir que l'IA et Discord, c'est déjà étroitement lié, puisque aujourd'hui, si vous vous amusez à faire de la génération d'images sur Midjourney, vous passez par un serveur sur Discord. Donc Discord a bien repéré que c'était une énorme tendance, l'IA. Ils ont bien repéré qu'il y avait des millions d'utilisateurs sur leur plateforme qui utilisaient déjà l'IA. Et donc ils ont pu voir ces données-là, ils ont pu travailler sur des fonctionnalités pour directement proposer de l'IA dans Discord. Donc Discord, ils ont toujours été assez agiles sur leurs nouveautés pour s'emparer des dernières tendances. Et c'est vrai que l'IA, il y a pas mal de choses qu'ils font qui ont du sens, je trouve, dans les nouveautés qu'ils proposent. Il y a notamment Clyde qui va être la possibilité d'interroger directement l'IA à travers dans le texte sur Discord. Vous allez pouvoir parler entre amis, par exemple, et vous allez avoir besoin d'avoir une information sur, faire vraiment l'utilisation de ChatGPT aujourd'hui, donc de pouvoir, par exemple, demander. L'exemple qu'il donnait, c'était l'heure qu'il est à Tokyo, par exemple, ou ce genre de choses, ou de demander des informations sur un ancien fait, etc. Pour peut-être régler une conversation entre amis, bah, vous allez pouvoir faire un petit at Clyde et lui poser directement une question. Donc après, l'intérêt, c'est par rapport à ChatGPT, c'est que là, cette fois, ça va être intégré à une conversation de groupe, alors que ChatGPT, pour l'instant, c'était en one-to-one, seulement de façon individuelle. Là, vraiment, il va y avoir la possibilité de pouvoir interagir à plusieurs, de pouvoir créer des threads, etc., autour de ce que Clyde va pouvoir nous annoncer. Donc ça, c'est un peu le premier truc auquel on pense quand on voit le succès de ChatGPT, le premier truc auquel on pense, si on parle d'intégrer l'IA à Discord, on se dit bah oui, ça va être intégré ChatGPT directement à Discord. Et Clyde, c'est ni plus ni moins que ça, puisqu'ils se sont associés à OpenAI, donc qui est la boîte qui a fait ChatGPT, pour ni plus ni moins. Clyde, c'est ni plus ni moins qu'une interface vers ChatGPT avec les mêmes limitations, le fait que la base de données de connaissances est hors ligne, qu'elle s'arrête en 2021, donc c'est-à-dire que si vous lui posez des questions sur 2022 ou 2023, il va être incapable de vous répondre. Vous ne pourrez pas lui demander qui a gagné l'élection présidentielle de 2022, par exemple, il saura pas parce que ces données s'arrêtent en 2021. Mais voilà, ça c'est le premier usage qui est un petit peu évident et un petit peu basique. Mais Discord, ils ont eu aussi d'autres idées. Ils proposent par exemple un résumé des conversations, ça je trouve ça assez malin. Donc si vous êtes habitué de Discord ou des messageries de groupe, vous avez déjà, je suis sûr, connu ça. Le fait de vous écarter du chat pendant quelques heures et quand vous revenez, il y a eu 200 messages sur le chat et les gens ont parlé d'un truc, ils se sont organisés sur un truc, ils discutaient d'un sujet et vous pouvez pas y prendre part et vous avez envie d'y prendre part, mais ça nous demanderait de relire les 200 derniers messages pour comprendre exactement les positions de chacun ou de chacune et qu'est-ce qui s'est dit et voilà. C'est là qu'intervient l'IA une nouvelle fois puisque Discord proposera plutôt un résumé de la conversation. Donc vraiment en un clic vous allez pouvoir savoir qui a dit quoi, quels étaient les sujets de discussion, etc. etc. Ça a l'air assez bien fait et je trouve ça assez malin parce que c'est vraiment pour le coup c'est un truc que je pense qu'on a un peu tous rencontré et qui peut vraiment pour le coup faciliter la vie quoi, d'avoir une sorte de résumé concis, lisible d'une conversation pour pouvoir après y prendre part. La dernière grosse nouveauté, après ils ont tissé d'autres petits trucs, mais la dernière grosse nouveauté c'est l'intégration directement dans AutoMod, qui est l'outil de modération automatique de Discord. L'idée ça va être que désormais AutoMod va pouvoir comprendre vraiment les règles de votre serveur et va pouvoir signaler automatiquement, donc c'est vous qui allez pouvoir avoir le dernier mot ou la modération va avoir le dernier mot en tout cas sur les sanctions ou pas à appliquer aux gens, mais il va pouvoir automatiquement signaler les propos qui semblent problématiques ou qui semblent juste enfreindre le contenu de votre serveur Discord, puisque un serveur Discord peut mettre n'importe quelle règle sur ses sujets de discussion et ils peuvent très bien interdire un sujet qui au demeurant est pas censé être interdit dans un serveur habituel. Par exemple, je sais pas, sur votre serveur vous pouvez décréter que la couleur bleue est interdite et du coup si quelqu'un sur votre serveur Discord commence à parler de bleu, AutoMod sera capable de le signaler automatiquement, voilà. Oui. Mais il est capable de comprendre le contexte, donc même si vous essayez de le piéger en utilisant des synonymes, en utilisant autre chose, en parlant de blue par exemple, des choses comme ça, il va être capable de le signaler aussi, il va être capable de le comprendre. C'est là où l'IA intervient, c'est pour essayer de rajouter de l'intelligence à tout ça et pas seulement quelque chose d'un peu basique, quoi. Sûr que si tu magouilles bien, tu fais sortir des règles l'IA et elle va s'autoban. Logiquement, là, c'est par exemple, dans le cas d'AutoMod, c'est une IA qui ne parlera pas, enfin, qui intervient pas, donc elle peut pas c'est pas un membre, donc elle peut pas s'autobannir. Cela dit, il y a peut-être moyen de faire en sorte que AutoMod signale Clyde, l'IA dont on parlait juste au-dessus, qui sera l'IA de conversation. Dans le chat. Oui, il y a peut-être des trucs un peu bizarres qui risquent d'arriver. De toute façon, c'est vrai que du coup, ça me permet de répondre plus sérieusement sur le fait que Discord a annoncé que tout ça, c'était des expérimentations, que ça arriverait dans les prochains jours, là, dès la semaine prochaine, la plupart vont arriver. Mais déjà, ça va pas être déployé à tous les serveurs, ça va dépendre des serveurs. En gros, ça va être sur les serveurs les plus populaires, les plus actifs. Et donc, c'est que des expérimentations, c'est que une version alpha pour l'instant. Donc, je suis sûr qu'on est tous sûrs qu'il y aura des bugs et des problèmes. Mais voilà. Après, plus sérieusement, j'espère qu'elle saura faire de bons résumés de conversations et qu'elle ne stockera pas les conversations. C'est l'idée. Et après, il faudra voir comment c'est implémenté, quelles sont les règles de modération des différentes IA, comment on peut les désactiver ou les activer, etc. Ça, il faudra voir après avec l'intégration. Puis au fil du développement, comme j'ai dit, là, c'est des expérimentations, donc ils ne sont pas encore totalement sûrs d'eux. Hein. Comme tout le monde un peu autour de l'IA sait que c'est encore assez limité comme outil et que... Il peut facilement y avoir des problèmes. Ils ont aussi présenté d'autres petits changements, comme Avatar Remix, par exemple, qui va permettre de... C'est des trucs qui sont un peu plus, je trouve, un peu moins intéressants, mais bon. Avatar Remix, ça va permettre de pouvoir modifier votre avatar ou l'avatar d'un de vos contacts en demandant à l'IA de modifier des trucs, par exemple, pour rajouter une moustache à une photo, ce genre de choses. Il y a aussi... je sais plus où c'est, mais il y a l'idée d'un tableau blanc interactif à plusieurs. Vous allez pouvoir dessiner des croquis. Et après vous allez pouvoir avec du texte pouvoir améliorer le croquis, le transformer en image générée par IA. Ça peut être rigolo quelques secondes, mais je sais pas si ça va être vraiment si intéressant que ça, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est une fonction, la fonction de tableau blanc interactif, c'est un truc qui manquait aujourd'hui à Discord et qui était assez demandé par les gens pendant le confinement. Ça aurait pu remplacer intelligemment ce jeu dont j'ai oublié le nom, mais l'équivalent du Pictionary, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire deviner des noms, des mots en dessinant sur son PC. C'était très populaire pendant le confinement, j'ai oublié le nom, alors que j'y ai joué il y a encore quelques semaines seulement. Mais c'était très drôle, voilà. Si le chat a le nom de ce jeu... Faire un chat et un tableau blanc pour dessiner, ça s'appelle un paint chat, j'en faisais en 2000 avec des amis et des artistes. Oui, bien sûr, non mais c'est pas nouveau du tout. Et d'ailleurs, la Nintendo DS, pas la 3DS, pas la Switch, la Nintendo DS, intégrait ça. On dessinait comme si on était sur un mur dehors, tout à fait. Mais du coup, ça manque quand même à Discord aujourd'hui, et bon, on réinvente les choses de façon plus moderne et plus mieux intégrée, et peut-être plus facile d'accès aussi. Moi aussi, j'ai connu IRC, mais c'était pas aussi simple à configurer d'explications qu'aujourd'hui Discord, même s'il y a plein de points communs. Ne serait-ce que le concept de channel, par exemple, est un concept hérité d'IRC, quoi. Donc, oui, je sais, je connais, oui. Alors, donc ça, c'est pour les outils de Discord, et c'est de tout pour l'IA. Mais du coup, ouais, gros sujet, l'IA, quand même, en ce moment. C'est un peu sur toutes les bouches. Là, ça y est, je sens qu'on arrive dans le moment charnière. Alors autant Discord, c'est encore pertinent, hein. Évidemment quand c'est Microsoft, Google et tout ça, c'est pertinent. Mais ça y est, on arrive dans le moment charnière où je sens qu'on va voir arriver toutes les marques qui vont vouloir dire « nous aussi on fait de l'IA, à tort et à travers, pour tout et n'importe quoi, même quand c'est pas du tout de l'IA, même quand ça n'a rien à voir, même quand c'est pas du tout pertinent ». Je le sens venir là, je le sens venir, ça y est, c'est le buzzword, donc du coup, toutes les marques, mais même, enfin, je suis sûr que Auchan et Carrefour vont vous mettre des communiqués de presse pour vous dire « Carrefour investit dans l'intelligence artificielle, le monde demain, évidemment. Ça y est, je sens qu'on arrive à ce moment-là, parce que c'est le nouveau truc qui excite un peu tout le monde. Cela dit, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant un peu comme avec les NFT, voilà. C'est beaucoup plus intéressant, justement, que les NFT ou que le métavers et ce genre de choses-là. L'IA, quand même, c'est beaucoup plus concret. Et on sent derrière, quand même, des usages qui peuvent réellement et faciliter la vie, et potentiellement remplacer certains métiers, enfin qui pose plein de questions et qui est un sujet vraiment intéressant du coup à suivre. Donc oui, nous clairement sur Fandroid, en tout cas on va en parler. On a créé une catégorie pour sur Fandroid, si on revient là, hop, à intelligence artificielle. On a toutes nos actualités autour de l'intelligence artificielle et avant c'était un tag, maintenant c'est une catégorie et je pense qu'on voit très bien qu'à un moment il y a quelques mois, d'un coup ça s'est accéléré et qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'actualités. D'ailleurs récemment il y a Google qui a annoncé sa Google I/O qui sera l'occasion d'annoncer des choses autour de l'IA pour Google. Ils sont censés avoir beaucoup beaucoup de projets en ce sens, donc ce sera en mai. Donc de l'IA on va vraiment en manger comme c'est pas permis, on va en avoir suite de 69. Dis donc, je suis de 90, voilà. Mais j'ai quand même connu IRC. À quand la nouvelle déflation de l'action? Non, la rubrique de Fandroid sur l'IA n'est pas tenue par une IA, elle est tenue plutôt par moi pour le moment, même si tout le monde peut y participer, tout le monde écrit dessus. C'est moi qui fais le suivi, voilà, qui est le nez dedans. Et en matière de nez, je peux me permettre d'avoir le nez dedans, j'ai de quoi faire. j'ai un gros pif. En attendant, bienvenue à toi déjà, Nîmes Daron, puisque c'est la première fois que tu utilises le chat ici. En attendant, surtout une intégration de Siri et... Alors, je l'ai du coup, une intégration de Siri et OK Google pour avoir de vrais assistants. Ça, c'était pour vous déclencher le truc. Gaffe aux pigistes chez Cinet, ils ont remplacé 10% par ChatGPT. Oui, alors c'est pas exactement par ChatGPT, mais oui, mais l'IA peut, ce que je disais, l'IA peut remplacer des métiers, tout à fait. Enfin, il y a la question de remplacer des rédactions, notamment pour des médias pour qui le journalisme n'est pas forcément très, très pertinent et que ce qu'il faut, c'est juste publier des articles qui ont l'apparence du journalisme ou d'un pseudo-journalisme. Il y a des boîtes qui ne vont pas hésiter à tenter l'aventure de l'IA puisque ça coûte potentiellement beaucoup moins cher d'avoir des articles écrits par une intelligence artificielle plutôt que par des humains à qui il faut payer des salaires. Donc il va y avoir plein de questions d'éthique, il va y avoir plein de questions sur la vérité de l'information, puisque là on arrive à vraiment à un nouvel échelon de facilité pour falsifier des choses, pour falsifier des vidéos, falsifier des images. Récemment je suis tombé sur un mème, c'était une vidéo, c'est complètement stupide hein, comme exemple, mais ça montre bien, enfin c'est justement parce que c'est stupide, je trouve que ça montre bien tout le danger potentiel du truc quand même. C'était une vidéo où des gens, en gros c'est un extrait d'un stream où t'as 2-3 streamers qui sont en train de se battre sur un jeu en ligne parce qu'ils sont en train de rater un combat de boss. C'était sur Final Fantasy XIV Online, pour info. Petit MMORPG. Donc ils sont en train de faire un raid, ils sont en train d'essayer de battre un boss, et ils commencent à s'engueuler. Et donc ça, c'est probablement la vidéo qui a servi de base à ce que j'ai vu. Moi, la vidéo que j'ai vue, c'est qu'au lieu d'avoir la voix des 3 streamers, il y avait la voix de Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama, avec des photos d'eux, etc. Et c'était vraiment leur voix. C'était leur façon de parler, leur voix, leur intonation. Mais sur le texte et sur l'ambiance de la vidéo où les streamers parlaient à l'origine, qui a servi de base en fait, à ce travail-là. Et on avait vraiment l'impression, honnêtement, que... Alors évidemment, on n'a pas l'impression, parce qu'on sait très bien que ça n'a jamais existé comme scène, et c'est complètement ridicule. Mais si, admettons qu'on ne connaisse aucun contexte, on avait vraiment l'impression que c'était Biden, Trump et Obama qui étaient en train de s'engueuler pour vaincre un boss dans FF14. Évidemment, on se doute bien que ça n'a jamais existé, que c'est faux. Mais ça montre bien, comme ça marche déjà sur un sujet aussi stupide que celui-là, sur lequel il est évident que c'est faux, on peut forcément se poser des questions sur la véracité de l'information si on nous montrait un tout autre discours. Alors, Wendy Gou qui dit « Quand tu entends sur France Info que Michel-Édouard Leclerc demande à ce qu'on taxe les robots comme les humains car ils remplaceront à terme ses salariés, comme avec ses caisses auto, étonnant. » Bah oui, et en même temps, c'était déjà proposé en 2017, lors de l'élection présidentielle de 2017. C'était Benoît Hamon qui portait ce projet-là. Parce que justement, effectivement, l'IA et la robotique permettent de remplacer certains métiers. Et que du coup, ça fait des rentrées, des revenus en moins pour notre système de cotisation sociale et d'impôts. Et donc, il y a une question qui va être si on est en mesure de remplacer l'humain par du robot, ce qui est plutôt un progrès du coup, parce que du coup, on a moins d'efforts à faire, il va y avoir une question de répartition du temps de travail, des revenus, etc., qui sont quand même générés par ce remplacement. Donc voilà. Je pense pas qu'il faille. Moi, je suis sur une position où je pense pas qu'il faille forcément rejeter l'innovation. Il faut pas forcément rejeter l'arrivée de la robotique. Je pense qu'il faut plutôt essayer déjà de prévenir les risques et d'accompagner la chose. Mais si on peut avoir moins d'humains qui bossent, théoriquement, c'est mieux. Faut juste, par contre, avoir une vraie politique d'accompagnement pour que les gens bossent moins, globalement, mais sans tomber dans la pauvreté, etc. Les prochaines années vont être passionnantes à vivre pour le changement sur la société. Bah oui, et du coup, dès 2017, il y a certains candidats qui commençaient déjà à en parler, comme quoi c'était pas si ridicule que ça. Et alors, le travail fourni, le revenu généré doit aussi contribuer aux retraites des robots. Bah non, bah justement, c'est bien tout le truc. Effectivement, il n'y a pas de cotisation sociale sur une machine. Donc c'est un sujet qu'il va falloir régler. Ça pose plein de questions. L'idée globale étant que à quel moment, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a inventé des systèmes de ce type, on a toujours réussi à inventer des nouveaux métiers aussi. C'est pas la première fois qu'on a un progrès. C'est pas la première fois qu'on a un progrès qui permet de justement de retirer une charge de travail aux gens. Donc c'est pas la première fois, et à chaque fois ça s'est plutôt traduit par des augmentations d'emplois parce qu'il y avait d'autres, on créait de nouveaux métiers. Là c'est moins sûr pour cette révolution là, ou en tout cas on peut toujours se poser la question. Et d'ailleurs Nim Daron dit: le but premier du progrès n'était pas de nous faciliter la vie, il est temps d'accepter qu'il ne faudra peut-être bientôt plus travailler pour vivre. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on a une société qui est basée sur qui aujourd'hui base son mérite sur le fait d'avoir un emploi, ce qui est déjà en plus différent du fait de travailler. Et je pense que c'est une mauvaise conception de la chose. Je pense que ça va être de moins en moins pertinent, et que je pense que certains sont en train de s'enfermer par idéologie dans l'idée qu'il faudrait que forcément tout le monde ait un emploi. Voilà. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas l'opinion, c'est pas, je sais pas, c'est, enfin, je parle que en mon nom, je veux dire, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est clair que c'est des sujets qui vont être très très intéressants, et c'est là où la presse tech aussi a un rôle à jouer, c'est préparer, expliquer ces sujets-là et préparer les gens à comprendre ces sujets-là pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix pour les futures élections, parce que c'est des changements de société, donc et qui dit changement de société dit changement assez important pour qu'il faut aussi que le pouvoir politique puisse s'en emparer Et pour que le pouvoir politique puisse en emparer, il faut que les électeurs soient conscients de ces problématiques-là. Donc ça va être le rôle de la presse dans les années à venir. C'est pour ça que l'IA est un sujet aussi important. C'est pour ça qu'on en parle sur Frandroid. Voilà. La boucle est bouclée. Mon père m'a dit que dans les années 50, quand il a commencé à travailler, on leur promettait qu'en 2000, ils n'auraient plus à travailler grâce à la robotique. On y est presque avec 30 ans de retard. Il faut maintenant que notre société, basée sur la cotisation sur le travail, évolue en même temps. Bah oui, on a quand même déjà pas mal avancé avec la robotique. Il y a quand même déjà, pour être parfaitement honnête et transparent, il y a un truc qui me vient en tête, c'est l'arrivée des caisses automatiques dans les supermarchés. Mon premier réflexe quand j'étais jeune a été de me dire que c'était mal. Parce qu'on remplaçait, on piquait le travail des gens, donc ça voulait dire que c'était mal. Et j'ai fait cette démarche-là, justement, de réflexion au fil des années, en me disant que c'est quand même un métier qui est plutôt précaire, qui est plutôt usant. Ça fait, quand vous êtes hôte ou hôtesse de caisse, en général, au fil des années, vous prenez cher au niveau du dos, c'est quand même des métiers qui sont assez, assez pénibles, et en plus qui sont assez précaires, qui ne sont pas forcément très bien rémunérés, etc. Où les conditions de travail ne sont pas très bonnes, quoi. Donc du coup, je me suis fait la réflexion qu'en fait, finalement, aller vers des caisses automatiques, si ça permet à moins de gens d'avoir cette pénibilité, cette charge de travail, ça peut être pas mal. Après, moi, dans ma conception, il faudrait faire en sorte que pendant la transition vers l'automatisation des caisses, il faut accompagner les gens qui sont actuellement dans le métier, détourner les nouveaux, peut-être en oubliant, enfin voilà, trouver des solutions pour que les gens aient des métiers qui sont aussi très utiles, parce que les gens ont besoin aujourd'hui d'emploi pour... c'est des métiers, voilà, les métiers de hôtesse et hôte de caisse, il y en a plein qui le font en temps partiel, etc. Et c'est des revenus littéralement de subsistance qui leur permettent de sortir la tête de l'eau aujourd'hui. Donc du coup, si vous les remplacez du jour au lendemain par des caisses, c'est problématique. Donc du coup, il faut les accompagner. Bref, là, du coup, je parle vraiment dans un sujet qui est complètement politique. C'est des questions qu'il va falloir se poser, en tout cas. Moi, j'ai plutôt mon avis sur le sujet. Je pense qu'il a été assez clair dans ce que j'ai dit. Mais même si on a un avis différent sur le sujet, il faut quand même aussi travailler la question pour pouvoir construire cet avis différent et pour être capable de le défendre, etc. Donc j'admets volontiers qu'on puisse avoir d'autres avis, il n'y a pas de souci, c'est juste... peu importe l'avis qu'on a, en fait, quoi qu'il arrive, c'est une question qui va se poser, et c'est une question à laquelle il va falloir se préparer à répondre, et donc il va falloir maîtriser le sujet, et donc il va falloir suivre un peu tout ça. Après, là, on est encore... c'est encore tôt pour parler de tout ça, mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de l'IA, on le voit... là où, pour rebondir sur ce que disait encore une fois Wendigo tout à l'heure, il parlait du fait que le travail allait être remplacé par la robotique. Ce qu'on voit là, en fait, c'est que pour la robotique, finalement, on a atteint un certain palier pour l'instant en termes d'innovation, en termes de robots dans le monde réel, je veux dire. On voit que, par exemple, les voitures autonomes, ça marche, mais ça ne marche pas parfaitement. On ne va pas aussi vite que ce qu'on aurait aimé aller dans le monde réel. En revanche, le truc qui a été un peu je pense qu'il a pu prendre par surprise, c'est l'arrivée de l'IA générative, donc la capacité à générer des images, générer du texte. Et là, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus fort, et ça a l'air de beaucoup mieux marcher que créer un robot humanoïde, quoi, en gros. Et donc les métiers, là où on pensait que ça allait être les métiers manuels qui allaient être remplacés, justement, dans les années 2000, et qu'on allait plus avoir de travaux manuels du tout parce qu'on allait avoir les robots façon tous les films de SF où vous avez des robots, quoi. Finalement c'est pas aussi évident, et c'est plutôt l'IA générative qui est en train de remplacer des métiers, du coup des métiers dits intellectuels, type les journalistes, les dessinateurs par exemple. Si on prend les générateurs d'images, y a plein de questions qui vont se poser sur ces métiers là des métiers même d'aide aux juridiques, d'aide pour, enfin, tous les métiers qui en gros aujourd'hui font de l'administratif, des résumés par exemple, de la prise de notes, ce genre de choses. Tout ça, c'est des trucs que l'IA peut faire, et que l'IA fait même déjà plutôt bien. Autant, par exemple, le journalisme, il y a encore un petit palier où on a vu que les rédactions qui ont été remplacées par des IA, en fait, finalement, les articles publiés contenaient tellement d'erreurs qu'il fallait les faire réécrire presque. Donc ça reste problématique. Autant générer un résumé d'une conférence, d'une réunion, ce genre de choses, d'un procès. Ça, c'est vraiment un truc que l'IA peut faire déjà très très bien, quasiment sans erreur, puisque c'est vraiment, elle n'a pas besoin d'inventer des choses, elle a juste besoin de résumer un propos. Donc Lord Jibis qui dit changer de poste, surtout quand ce sont des postes fixes et si possible alterner avec des postes actifs. Wendigo qui dit en effet éviter que les gens se retrouvent dans ces métiers, c'est ce qu'on souhaite. Mais comme la survie des gens est basée sur le travail rémunéré, supprimer ces métiers peut qualifier, peut mettre beaucoup de gens dans la précarité. Bah oui, oui. C'est dur de trancher tant qu'on reste sur ce modèle de société, sur la cotisation sociale payée par les travailleurs, mais c'est un peu beaucoup politique. Bah oui, oui. Je pense que tu as un peu résumé la question. Il va y avoir des conceptions qu'il va falloir un peu déconstruire et remettre en question. Déjà que devenir illustrateur, c'est hyper dur car c'est très mal payé. J'ai abandonné l'idée il y a quelques années. Alors maintenant, avec l'IA, mes amis illustrateurs, illustratrices galèrent encore plus. Bah tout à fait. Autant pour l'instant, on est encore à un niveau où tu vas avoir besoin en bout de cycle de quelqu'un qui te produit l'image finale parce que j'imagine que vous avez déjà tous vu une image générée par une IA au niveau des mains par exemple d'un humain, bon bah c'est compliqué, donc il va y avoir un travail final qui va être fait probablement par un illustrateur ou illustratrice, un petit peu comme un relecteur pour un article, mais par exemple un travail de conception où vous allez vraiment devoir, vous allez pouvoir demander à l'IA d'imaginer en fait vraiment l'étape d'imagination de voilà, j'imagine dans mon livre, j'imagine un monde voilà de SF blablabla, une planète machin, vous allez le décrire à l'IA et l'IA va vous créer facilement 3 ou 4 images d'illustration basées sur la description que vous lui en avez faite, et ça va au moins vous donner source d'inspiration pour après donner ça à l'illustrateur pourra réaliser le travail final. Donc il y a cette première étape de un peu de prototypage qui va être réalisée désormais par l'IA beaucoup plus souvent. Et il y a plein de, enfin dans les jeux vidéo, enfin il y a plein de métiers de création aujourd'hui qui risquent d'être remplacés plus ou moins par l'IA assez rapidement. Enfin il y a plein de travail, il y a plein de questions qui se posent quand on voit maintenant qu'il y a des IA par exemple qui sont capables. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vais peut-être pouvoir vous la retrouver. Tiens, je vous cherche. Parlez dans le chat pendant que je... Allez-y, meublez. Alors, c'est AI, du coup, en anglais. Voilà. Alors, je vais vous mettre ceci. Je vais mettre le son de mon browser. Vous allez me dire si vous entendez le son. C'est quelqu'un qui s'est amusé dans World of Warcraft à... Vous voyez, dans World of Warcraft, vous avez des quêtes. Vous avez des quêtes qui sont du texte simple.
The Springpaw that inhabit this region are known for their high-quality pelt. We've even seen Night Elf scum travel to these lands just to poach them. Our skirmishes with the Imani have put a bit of a strain on our supply of gear, and our rangers don't have much time to hunt for pelts anymore. If you'd be willing to lend a hand by collecting Springpaw pelts, I'd be happy to reward you with a handcrafted piece of armor. You'll find Springpaw stalkers all around the woods north of here.
We will have...
Voilà. Donc dans World of Warcraft, quand vous prenez une quête, tout le texte que vous venez de lire là, normalement, en principe, il fallait le lire soi-même, dans sa voix, dans sa tête. Il n'y avait absolument pas un doubleur pour doubler chaque texte du jeu. Et donc là, ce que vous avez entendu, c'est... une IA, c'est une IA qui a complètement lu le texte et qui a généré ce voice acting. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une IA qui juste lit un texte, c'est elle joue. Donc elle donne, il y a l'accent, il y a la face, il y a l'intonation, il y a le voilà. On a vraiment l'impression que le personnage est en train de prendre vie devant nous et parle. Honnêtement, enfin moi en tout cas, ça me. Alors c'est pas une scène. Là, c'est pas une scène de grand acting en termes de. Ça ne demanderait pas des efforts particuliers en termes d'acting. C'est pas une scène à grand émotion, à grand spectacle, de beaucoup d'action, etc. Donc j'imagine que pour une scène plus complexe, il faudrait probablement encore le travail d'un acteur. Mais là, on voit déjà que l'IA, alors que c'est un travail, là c'est un travail amateur, hein, c'est pas du tout Blizzard qui a fait ça. C'est quelqu'un qui l'a fait de son côté. Donc on voit que, pour du travail à petit, enfin comment dire. Ça, ce qu'il a fait là, le mec, tout seul dans son coin, sans avoir les droits sur le jeu, sans l'intégration dans le jeu et tout ça, il a fait un truc qui normalement demanderait de payer un salaire à quelqu'un pour faire un acting dessus. Et il a réussi à le faire, alors il l'a pas fait gratuitement, je pense que c'est un service qui est payant, l'utilisation de l'IA est payante, mais on imagine bien que l'utilisation de l'IA est beaucoup moins chère que le paiement d'un salaire pour un acteur, pour un comédien de doublage. Et pour des PNJ de ce type-là, qui sont pas forcément... qui n'ont pas une part très grande dans l'histoire d'un jeu, notamment dans les RPG ou les MMORPG où tu as vraiment beaucoup beaucoup de PNJ, bah ouais, c'est incroyable. Moi, si dans FF14 je pouvais avoir dans les petites quêtes où des fois j'ai un peu la flemme de lire, je pouvais avoir du doublage comme ça. Moi, en tant que joueur, consommateur, client.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Je suis chaud patate pour avoir plus d'immersion, plus de voix, plus d'ambiance, etc. Dans mon jeu. Par contre, côté politique, ça pose plein de questions ça pose plein de questions sur l'avenir du métier. Et ça, le problème, c'est toutes ces IA-là, elles se basent sur un travail qui est déjà existant. Et donc, il y a aussi toute cette question de si on rompt la création de nouveaux comédiens de doublage, on rompt la création de nouvelles voix. Et du coup, c'est un peu comme l'idée que... Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu comme l'idée que si on est en capacité de mettre à l'écran au cinéma des acteurs en les rajeunissant ou en les recréant totalement parce qu'on a déjà plein d'images d'eux à travers des films, si on n'a plus besoin de nouveaux acteurs, du coup, on va se retrouver avec, de façon un peu à vie, les mêmes acteurs qui tournent en boucle de façon un peu éternelle, et ça peut être un problème aussi. Il faut aussi du renouvellement de génération, du renouvellement de talent, pour continuer à créer. Et l'IA ne crée pas, l'IA résume, génère des choses à partir de l'existant, mais elle ne crée pas totalement quelque chose de totalement nouveau. A priori, pour l'instant, on n'a pas vu une IA créer un nouveau style, un nouveau style graphique, une nouvelle direction artistique, quelque chose de complètement nouveau. C'est toujours quelque chose qui est basé sur de l'existant. Ça fusionne des choses existantes. Donc ça pose plein de questions. Mais c'est un sujet qui est passionnant. D'ailleurs, ça a l'air de vous passionner, vu que vous êtes moult à en parler sur le chat. On se retrouve en concurrence avec des développeurs et des prompteurs, sachant que les IA pompent les illustrations qu'on publie sur Insta, DeviantArt et compagnie. Ouais, oui, bien sûr. Les clients se disent pourquoi payer une illustration originale 600€ si une IA peut générer quelque chose de potable en 3 clics. Tout à fait. Le problème, c'est que dans les grandes... Alors, c'est Rise qui nous chat pour la première fois, donc bienvenue à toi, Rise91. Le problème, c'est que dans les grandes surfaces, c'est plus la diminution des postes. Avant, il y avait des personnes qui remplissaient les rayons avant ouverture, et là, les rayons commencent à être remplis à l'ouverture. Oui, ça pose des questions. Le doublage, ça va être problématique. Je sais qu'il y a des IA qui commencent à être conçues pour faire bouger les lèvres des acteurs, actrices, pour coller à la langue doublée. On pourrait avoir des IA qui généreront des textes personnalisés avec juste un fil directeur. Oui, ça c'était un... Alors c'est quelqu'un qui l'a déjà proposé dans un mod pour un RPG, dont j'ai oublié le nom. Mais il l'a proposé sous forme de mod. En gros, il a branché le jeu, les dialogues des PNJ, le moteur de dialogue du PNJ, sur une IA type ChatGPT, avec les bonnes commandes et les bonnes commandes pré-remplies de son côté. Et du coup, le joueur pouvait vraiment poser des questions pouvez-vous m'indiquer la ville la plus proche avec un forgeron? Et la personne en face pouvait dire, ah ben non, je suis pas au courant, vous devriez essayer peut-être tel village, il est un peu plus haut et tout. Et enfin voilà, il y avait vraiment une interaction réaliste. Et en plus là, du coup, comme le mod avait bien mis les bonnes les bonnes variables en place pour le moteur, le PNJ avait un accent, avait un dialecte, avait tout ce qui colle pour que ce soit cohérent dans l'univers du jeu et pas d'avoir l'impression que c'est un robot qui t'a répondu, un robot des années 2020 qui t'a répondu alors que t'es en train de jouer à un jeu qui se passe au Moyen-Âge, quoi. Donc tout ça est assez bluffant et peut aussi amener à créer des nouveaux genres de jeux, des nouvelles expériences. On sent qu'il va y avoir des expérimentations et qu'il va falloir voir un peu, il va falloir faire le tri. est-ce qu'on a envie que tous les RPG à l'avenir, ce soit des jeux où il faille parler aux PNJ de façon concrète plutôt qu'avoir le choix directement entre trois options et qu'il y ait quelqu'un qui a derrière écrit les bonnes réponses de la bonne façon pour inciter le joueur à faire telle ou telle chose, moi, je serais tenté de dire quand même que c'est aussi intéressant d'avoir des fois des choses sur mesure et bien ficelées. Un petit peu la différence entre un bon level design où les personnes ont bien fait les choses de façon où les développeurs ont bien pensé leur niveau versus des jeux qui vont avoir tendance à faire de la génération procédurale et où des fois, du coup, ça crée des ratés. Donc les deux sont intéressants pour des raisons différentes, mais du coup, voilà, faut se méfier un peu de tout ça. On va passer au sujet suivant car on a fait très long sur l'IA du coup. mais en même temps, c'était ultra passionnant, donc c'est cool. Et ça montre que je pense qu'on fait bien d'en parler sur Frandroid, parce que je pense que ça intéresse tout le monde et que de toute façon, ça nous concerne tous, donc il va falloir en parler. Et merci du coup pour les gens qui ont participé à la conversation et pour les nouveaux follows, notamment du coup Rice91, merci pour le follow et merci à tous les autres follows. Donc on va parler de Samsung un petit peu. Alors du coup, je vais faire plus rapide parce que en plus on ne sait pas encore grand chose. Simplement, si vous aviez raté l'info, Samsung travaille sur des lunettes de réalité mixte. Oui, on parle beaucoup d'IA, mais on parle encore un petit peu de la réalité virtuelle, métavers et compagnie. On sait que Apple prépare ses propres lunettes, que normalement, là, on est vraiment qu'à quelques mois de la présentation. Ça fait quelques mois qu'on répète ça, donc ça va bien finir par être vrai. Visiblement, à chaque fois, le truc est un peu repoussé au dernier moment. Mais là, le casque de réalité mixte d'Apple, a priori, ce serait pour juin, pour la WWDC, donc la conférence dédiée aux développeurs. Et donc, Samsung ne serait pas en reste, puisqu'ils ont aussi leur propre solution en développement. Eux, ils sont en partenariat avec Qualcomm et Google. Donc on aurait une plateforme Snapdragon, ce serait un casque autonome et il tournerait sous une version modifiée d'Android et ce serait un casque qui a priori s'appellerait les Galaxy Glasses. C'est marrant parce que j'ai récemment eu le débat parce que la plupart des produits, à chaque fois, les gens, pour l'instant, les Xiaomi et compagnie, quand ils annoncent des lunettes, ils annoncent juste des glasses, au singulier, alors que le pluriel c'est glasses, et donc a priori Samsung utiliserait le pluriel et ce serait les Galaxy Glasses, donc les lunettes Galaxy en traduction littérale. On aurait aussi un partenariat quand même avec Microsoft et Meta, ce qui laisse penser qu'on aurait accès au moins aux applications sur Windows 11 et feu Oculus Rift, et donc peut-être aussi SteamVR. Donc tout ça serait compatible avec le casque et ce serait probablement un casque haut de gamme puisque on parle, donc c'est le site Galaxy Club qui a pu avoir l'info, on parlerait d'un casque de réalité mixte qui serait concurrent et du casque d'Apple et du MetaQuest Pro qui est un casque qui a récemment baissé de prix mais qui est quand même à plus de 1 000 euros, donc on serait sur du haut de gamme, mais voilà, moi je serais curieux quand même. Samsung, c'est un excellent constructeur de produits d'appareils tech et du coup je serais très curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire en termes de lunettes de réalité mixte, sachant qu'ils ont la maîtrise de la production des écrans, avec Snapdragon ils ont la bonne puce et on a vu avec le Galaxy S23 que Ultra, qu'ils sont quand même capables de faire quelque chose de très... Qu'est-ce que quoi, Wendigo? Moi, je serais curieux de voir ce que Samsung va être capable de faire dans ce côté-là, parce qu'ils sont très forts en matériel, et qu'en plus, ils ont confié le logiciel à Google et Android, donc c'est quelque chose d'assez robuste. Donc on verra ce qu'il en sera. Il n'y a aucune date de présentation pour l'instant. On peut se penser que ce sera à l'été, vous savez, en août, quand ils dévoilent leur nouveau Galaxy Fold ou Galaxy Flip, ce sera peut-être le moment de dévoiler leur nouvelle lunette. Alors du coup, ça voudrait dire qu'ils pourrait potentiellement passer après Apple, donc on verra. J'apprends l'anglais en ce moment, donc je prends toute leçon pour la prononciation. Alors, je suis pas sûr qu'il faille compter sur moi pour la bonne prononciation des mots. Je suis pas autant, je pense bien comprendre l'anglais et pouvoir l'écrire de façon assez correcte pour me faire comprendre par un peu n'importe qui. Autant le parler avec mon magnifique accent, je suis pas très convaincu. je pense qu'il faut pas me faire confiance. Glasses. Mais je crois que ça se prononce comme ça. Mais voilà. Merci White Tiger du coup pour le follow. Ça fait plaisir. Lord Gibus, quand il avait 15 ans, il disait à sa prof d'anglais: Madame, un jour les ordinateurs pourront traduire tous les langages du monde. Elle m'a ri au nez et moi de nos jours, je ris dans ma tête quand j'entends dire: mais on n'est pas prêt de voir arriver ça, parce que ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Bah là, on y est presque, hein. La traduction est universelle, on la touche du doigt, hein. Là, plus ça va, plus on en approche. Toutes les couches de technologie nécessaires commencent vraiment à devenir, à s'améliorer, et donc qu'on va pouvoir tout refusionner, ça va. J'y crois pas trop à ces lunettes VR, AR, même si les lunettes sont plus petites. Moi, je reste, alors j'y crois pas trop en l'état, mais je reste assez optimiste, notamment depuis que j'ai vu un peu ce que pouvait donner le MetaQuest Pro. J'y crois pas trop en lunettes qu'on leur porterait vraiment tous les jours, n'importe où, mais en remplaçant, attention, je vais sortir un pari, en remplaçant d'un PC, je trouve ça plus... mettre des lunettes, c'est pas naturel. Moi, ça me... Je porte pas de lunettes, j'ai une bonne vue, donc je porte pas de lunettes. Et pourtant, ça me choque pas l'idée de pouvoir mettre des lunettes. Mais comme je l'ai dit, comme j'étais en train de le dire, en remplaçant d'un PC. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas du tout être debout avec des lunettes ou être vraiment, genre, les garder sur soi et genre même être dans la rue ou des trucs comme ça, pas du tout. En revanche, remplacer tout ce qui est écran qu'on a devant nous aujourd'hui par tout ce qui est sur un bureau, en fait, hormis le clavier et la souris, si on peut tout remplacer par un casque, en fait, juste du coup, le PC portable, l'écran, les plusieurs écrans, etc., si on peut tout remplacer par un très bon casque, quand on s'assoit à son bureau, on le met, et après on peut utiliser le clavier et la souris pour avoir une expérience réalité mixte. Là, par contre, j'y crois un peu plus. Si tu n'en avais pas besoin, tu n'en porterais pas. Mais j'en ai pas besoin, mais par contre, si on me propose de remplacer tous mes PC et tout par deux lunettes et qu'on a une excellente qualité d'écran et d'affichage, etc., moi je suis chaud. En effet, la traduction universelle permet un échange qui n'a jamais été aussi facile et en grande quantité d'infos échangées, et ça va révolutionner encore plus notre monde en diffusant encore plus l'info. Et quand je dis info, je parle de savoir de masse. Oui, tout à fait. Bah déjà maintenant, Internet a déjà tellement rapproché, a tellement accéléré ça déjà, le fait que maintenant on est au courant, si un événement à l'autre bout du monde, on est au courant dans la seconde quasiment. C'est quand même assez fou de se dire ça, quoi. Ça reste toujours un truc qui est marquant de se dire qu'on peut être au courant de n'importe où, n'importe quoi, qui se passe à peu près dans le monde, dans les quelques minutes, quoi, quand il y a un événement très important. Non, bah après, en l'état, je suis assez d'accord avec Ginta, je ne sais pas comment on prononce. Moi, je suis assez d'accord. Pour l'instant, je sais pas le truc auquel je crois le plus. Hein, c'est juste que bon, on verra bien ce que ça donnera, quoi. Mais je suis un peu plus optimiste. En fait, je suis assez vendu par l'idée que si les écrans sont d'excellente qualité et les caméras d'excellente qualité, quand tu portes le casque, tu puisses avoir des écrans virtuels de face à toi et avoir quand même accès à un retour physique avec un vrai clavier physique et une vraie souris physique, et pouvoir utiliser une sorte de pseudo PC avec des écrans géants devant toi sans les avoir physiquement devant toi quand tu retires le casque. Ça, voilà. Après, les lunettes de réalité augmentée, pour l'instant, j'y crois pas trop. Je vois bien les usages. Ça, on n'a pas trop de mal à les imaginer parce que les films de SF ont fait ça pour nous. Mais technologiquement parlant, par contre, des lunettes de réalité augmentée, aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. J'en ai testé pas plus tard que la semaine dernière au Mobile World Congress. C'est cool, ça commence à s'améliorer et tout. Mais ça reste des prototypes, ça reste des trucs où tu sens que le truc a 3 heures d'autonomie. Enfin, c'est compliqué encore aujourd'hui. C'est compliqué. Donc on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant, pas convaincu pour l'aspect réalité augmentée. On verra. Même si HoloLens et tout ça, enfin les expérimentations qui ont été faites, c'est très cool. Hein. Mais pas encore convaincu. On verra cette année. Mais après, on verra aussi en termes d'usage. Si Apple et Samsung arrivent à proposer des choses nouvelles, ça peut être aussi très intéressant. Mais pour l'instant, Apple et Samsung, on parle de casques de réalité mixte, donc c'est-à-dire des vrais casques de réalité virtuelle avec lesquels à l'avant il y a des caméras qui permettent de reproduire le réel dans l'environnement virtuel pour pouvoir mixer les deux justement et pouvoir amener la 3D pouvoir amener des éléments vraiment en 3D dans notre environnement réel que l'on perçoit seulement à travers le casque. Voilà pour la réalité augmentée. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais mis dans le titre? J'avais mis VPN Google, on va en parler. Parce que je ne voudrais pas que vous partiez sans avoir tout eu de ce qui était proposé au sommaire. Salut Victor, je crois, si je me souviens bien du pseudo. En tout cas, salut Vic, merci pour le coucou. Ah, ça y est, Wendigo, il nous fait de la liste, c'est très bien, c'est cool, des usages possibles. Il me semblait bien. Salut Victor. Il faut que Victor, il y a une organisation qui est en train de se faire, faut qu'on parle de Smash. Voilà. Le mec balance ses invitations en live. on en reparle en reparlant en messagerie. Kipikor, un peu dubitatif sur un remplacement des écrans pour des lunettes. Problème de focus, fatigue oculaire. Oui, ça je suis d'accord. Donc ça, c'est pour ça que je dis, il faut voir la qualité d'écran, il faut voir la qualité des caméras, il faut un peu tout ça. Faire des tutos en réalité augmentée, ça pourrait être pas mal. C'est ce qu'avait imaginé Microsoft avec la première présentation des HoloLens. Et d'ailleurs, les HoloLens 2 mettaient vachement l'accent dessus. Par exemple, t'es en train de vouloir réparer des tuyaux chez toi pour sans parce que t'as pas de parce que t'as les outils, que c'est un petit truc facile et t'as pas appelé un plombier. Et tu as tes parents qui s'y connaissent vachement mieux, qui veulent te guider à travers Skype ou à travers, du coup aujourd'hui ce serait quoi, Messenger, FaceTime et compagnie. Et en fait, plutôt que juste te guider en te disant fais ça, fais ci, ils seraient capables de t'afficher vraiment dans l'espace réel. Tu aurais la flèche qui tourne dans le bon sens de vas-y, il faut tourner ça, faut réparer ça, faut appuyer ici, voilà. Ça peut être très puissant aussi. Et du coup, pour la formation en école, ça peut être très fort aussi. Jinx qui vient de... bon réveil, Jinx. t'inquiète, tu auras le replay. On a beaucoup parlé de d'IA. Voilà. Et on a parlé... et après, on a parlé de réalité augmentée virtuelle. Alors, je sais pas ça veut dire quoi, le BIM. Mais dans l'air et dans le bâtiment, l'air et la VR se développent assez rapidement, j'y crois fort. En tout cas, Building Information Modeling... genre la visualisation la prévisualisation de ce que ça va donner à l'avance, en fait. Par exemple, quand tu visites un appartement qui est vide et on te montre un peu l'idée de à quoi ça pourrait ressembler une fois que les travaux seront finis, c'est ça? Ouais, oh, je suis fort. Merci pour les explications. Mais ouais, bah ouais, ça a l'air très cool. En construction surtout, ouais, bien sûr, comme ça tu visualises. Ça peut être effectivement assez puissant. Mais ça va demander, en plus, j'imagine que ça demande de réinventer certains métiers. Quand t'es architecte et que t'as peut-être débuté ton métier avec juste des dessins 2D à la main, j'imagine que ça doit pas mal changer les choses d'imaginer directement le volume du truc, quoi. D'avoir une connaissance de l'outil informatique pour pouvoir travailler la 3D. Quoi. Et oui, Autodesk, moi, c'est quand j'étais au lycée, on avait pour du design mécanique, on utilisait un autre logiciel, comment il s'appelait ? C'est un logiciel assez connu du monde professionnel pour c'est de la création 3D, mais spécifiquement dans le monde de l'industrie, de la mécanique, etc. C'était pas 3DS Max, c'était pas Maya et compagnie, mais c'était autre chose, j'ai oublié le nom. C'était pas Katia. SolidWorks, merci, SolidWorks, c'était SolidWorks. Wow, on a des spécialistes. C'était totalement SolidWorks. Ah bah dis donc, il y a les SolidWorksos qui sont sortis du bois pour cette cette question. Je vais au quiz plus souvent sur des outils de informatique. Mais totalement, ouais, c'était SolidWorks. On travaillait dessus au lycée. Voilà, on apprenait à faire des chanfreins et des trucs comme ça. Et merci. Du coup, mais vous êtes beaucoup à follow. Merci à Midou, à Wilk, à Control-S, Maxime, Faya et White Tiger, que j'étais déjà remercié. Merci beaucoup pour les follow et merci pour les gens qui chatent pour la première fois. C'est très cool que vous soyez là. Je rappelle le principe, c'est qu'on fait une matinale. En principe, du lundi au vendredi, souvent c'est plutôt du mardi au vendredi, entre 9h30 et 11h, on fait un point sur l'actu tech et on discute de façon chillax des sujets tech. Et du coup, des fois, on a prévu de parler de 4 ou 5 sujets et finalement, on se rend compte qu'on est arrivé aux deux tiers du live et qu'on a abordé à peine 2 sujets. Voilà, c'est à peu près la situation dans laquelle je suis actuellement. J'ai eu le même logiciel en 2000 sur des Pentium Pro à l'époque. Le premier smartphone à 100 euros est plus puissant que notre gros PC de l'époque. Ah bah ça, moi j'ai connu, mes outils informatiques quand j'étais à l'école, c'était encore, des fois c'était c'était en ligne de commande, et puis sinon c'était du Windows 3.1, 95, 98. Aujourd'hui, le moindre processeur est clairement plus performant. Ouais. C'est intéressant de tester, de reprendre un vieux Pentium, genre même un vieux Pentium 4, et de voir où il se situe aujourd'hui par rapport à ce qu'on... Alors DOS, je crois que je ne l'ai jamais connu à l'école, je le connaissais chez moi, quoi, pour pouvoir démarrer Warcraft. Je crois que techniquement, je crois qu'en réalité, je pense avoir toujours connu Windows 3.1 au moins. Mais pour lancer les jeux sur Windows 3.1, il fallait quand même passer par DOS, notamment j'avais des jeux sous DOS, quoi. J'avais des jeux en version DOS avant qu'ils soient redéveloppés après pour les versions Windows 95 et plus. C'était des jeux en version DOS et du coup il fallait les démarrer en ligne de commande à l'ancienne. Je me souviens du premier Warcraft comme ça par exemple, que j'avais appris à démarrer, et oui, les bonnes vieilles commandes. Doom, oui, voilà. Alors j'avais Doom, Wolfenstein 3D aussi, ce genre de choses. Pareil, c'était des. Fallait les lignes de commande pour démarrer les jeux. Oh là là, ça nous remonte. voilà. Est-ce que. Alors, petite. Allez, dernière touche de nostalgie sur tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de quand on a appris à faire des raccourcis sur le bureau et qu'on pouvait customiser l'icône et que pour des trucs genre Duke Nukem et compagnie, on pouvait mettre le petit baril de dynamite ou ce genre de choses, que Windows, c'était Windows 95-98 qui proposait un pack d'icônes un peu loufoque que tu pouvais utiliser pour créer des... bref, je suis à peu près sûr que dans Windows 11, il doit y avoir moyen de retrouver ces raccourcis-là et de pouvoir encore mettre des raccourcis avec ces vieilles icônes. C'était très rigolo. Bref, donc dernière news, parce que je l'avais mis quand même en titre, puis on pourra peut-être parler d'autres choses après, c'est Google One. Google One qui s'améliore, donc c'est l'abonnement de Google, hein, qui permet d'avoir notamment du stockage supplémentaire. Et petit, simple, très rapide news pour dire qu'ils offrent désormais un accès, si j'ai bien compris, à un VPN. Voilà, donc maintenant il est disponible dans la plupart des pays, 22 pays sont concernés dont la France et ses voisins. Voilà, donc il n'était disponible qu'aux clients des forfaits de stockage de cloud à 2 Teraoctets et aux possesseurs de Google Pixel 7 et 7 Pro. Il est désormais ajouté aux deux autres abonnements proposés par Google One, celui de 100 gigaoctets à 2 euros par mois et celui de 200 gigaoctets à 3 euros par mois. Et donc voilà, donc si vous avez besoin d'un VPN et que vous êtes abonné à Google One, bah, c'est peut-être le moment voilà, si vous cherchez un VPN et que vous êtes abonné à Google One, ça peut être bonne idée. Oula, alors Wendigo, qu'est-ce que tu nous dis? Toi tu dessinais tes propres icônes et curseurs animés de souris. Oh, ah, je me souviens d'un ami qui avait configuré son PC pour que l'icône de souris sous Windows, ce soit l'icône de souris de Warcraft 2, parce qu'à l'époque les jeux, quand vous étiez dans des jeux vidéo, notamment les jeux de stratégie, l'icône de souris, c'était pas celle de Windows, c'était une icône personnalisée avec l'ambiance du truc. Et par exemple, Warcraft 2, quand vous jouiez les orques, c'était une sorte de main coupée. Et j'avais un pote qui avait mis, cette main coupée comme curseur sous Windows, voilà. J'ai créé une animation DBZ pour curseur de souris au lieu du sablier. Greg pourrait te montrer, ça, je lui ai montré sur un MP Twitter. Ah bah écoute, pourquoi pas. HBin est en pleine ouverture de chakra. Eh bien, bonne ouverture de chakra, voilà. donc ça c'est pour Google One et dernière petite news sur le fait que on a publié le test du Corsair Xeneon Flex, donc c'est un écran OLED très haut de gamme puisqu'il est vendu à plus de 2000 euros, hein, 2400 euros quand même. On a pu le tester et ma foi il est c'est un des meilleurs écrans du marché je pense, parce que déjà l'OLED, hein, honnêtement c'est assez incroyable, et puis certification HDR, ça va, c'est bientôt le week-end, ouais, il va falloir que je dorme. j'ai quelques, donc là vous pouvez voir un peu le ça c'est du coup vous pouvez voir le reflet, parce que du coup, donc bref, la surface arrière de l'écran est brillante et du coup vous pouvez voir nos bureaux, donc ça c'est le mien qui est là, du coup ça doit être le bureau de Titouan j'imagine. Et il y a le reste de la rédaction derrière. Ah, il y en a qui sont déjà en week-end, écoutez. Moi, c'est bientôt le cas. Moi, dans quelques heures, c'est le week-end et je vais hiberner. Donc, on a ce magnifique écran, donc 21/9, et là, donc la particularité de cet écran, vous pouvez me voir utiliser mes beaux muscles ici pour en fait pouvoir l'incurver. Donc, il est au choix plat ou incurvé avec un angle de 800 R, je ne sais plus comment on dit. Une courbure de 800 R, pour pouvoir vraiment pouvoir passer facilement d'un écran plat à un écran incurvé, et ma foi ça marche plutôt bien. C'est un peu effrayant les premières fois quand tu prends un écran dans tes mains et que tu le ramènes vers toi et que ça le plie, c'est un peu effrayant. Et oui, on a un peu l'impression de pouvoir faire sa muscu parce que ça, c'est quand même assez résistant, faut quand même assez tiré pour vraiment le plier, et on a un peu peur, en fait on a vraiment la crainte d'aller trop loin et de craquer l'écran, quoi. Alors qu'en réalité, c'est évidemment c'est bien pensé, hein, et c'est pas du tout le cas. Et du coup, en fait, c'est il y a un clic en fait quand vous le tirez, et ça marche plutôt bien. Donc c'est plutôt assez cool. Et il y a évidemment aucune trace. Enfin, ça marche très bien. Et du coup, vous pouvez aussi bien l'utiliser comme écran plat que comme écran incurvé. Écran incurvé plutôt pour les jeux vidéo, écran plat plutôt pour le travail. Ça marche très bien. Il y a aussi pas mal de bonnes idées. Par exemple, au niveau de la connectique, vous avez ici, ça c'est la connectique du moniteur. Donc, il y a une capacité de faire hub USB. Et vous le voyez, en fait, le hub USB passe par de l'USB type C. Et ce port-ci, ici, USB type C, est capable à la fois de faire hub USB, DisplayPort, c'est pour ça qu'il y a un petit logo ici, et recharge électrique, donc vous allez vraiment pouvoir tout faire avec un seul câble, brancher votre PC portable avec un seul câble, et il va à la fois recharger votre PC, faire le transfert de la vidéo pour l'utiliser pour avoir l'écran externe, et pouvoir utiliser les ports USB du moniteur comme ports USB supplémentaires, comme dock. Vous voyez qu'il y a aussi des ports à l'avant du moniteur. Donc ça marche plutôt bien. Alors attention, je vois que dans le... Oui, en fait, on voit le symbole de batterie. Ils ont vraiment bien respecté la norme, pour le coup, c'est cool. Vous voyez, en fait, il y a écrit 5 gigabits seconde. Donc ça, c'est la norme de transfert USB. Il y a le symbole du DisplayPort, c'est pour dire que c'est capable de faire du transfert vidéo par le protocole DisplayPort. Et le fait que le logo soit imprimé sur une sorte de symbole de batterie, c'est pour indiquer qu'il est capable de recharger un PC portable. C'est quand même assez bien. Là, pour le coup, ils ont très très bien siglé leur port USB. On comprend exactement ce dont il est capable de faire. Et c'est pour ça que celui-là, par exemple, il n'est pas capable de faire ni la recharge ni... il n'est pas capable de faire le DisplayPort. Il est seulement capable de faire la recharge et le transfert de données. C'est utile pour les PC, par exemple les PC de bureau, si vous passez plutôt par du HDMI pour ce qui est du transfert vidéo. Donc là, c'est plutôt bien fait. Et je vois dans le chat que Lord Gibus disait USB-C Gen 2X2. Attention, c'est pas exactement ça. Alors, j'ai plus en tête le Gen 2X2 Company, mais on a un dossier complet. En plus, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. C'est un peu la honte, là. USB à Android, si on cherche ça. Voilà, j'ai tout écrit. On a un dossier complet. Et du coup, on a dit que c'était combien, là ? Il y avait écrit ? On a dit que c'était du 5 gigabits seconde. Donc ça correspond à de l'USB 3.0 ou aussi appelé USB 3.2 Gen 1X1. Et donc ça peut monter jusqu'à USB 3.2 Gen 2X2. Mais attention, c'est ça que je voulais... là où je voulais insister sur la petite nuance dans ce que tu écrivais, Lord Gibus, c'est... D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je n'affiche pas le chat, j'aurais pu l'afficher. Ça aurait pu permettre aux gens de peut-être mieux comprendre à quoi je réponds si vous êtes en train de regarder le replay, que vous n'avez pas forcément l'œil sur le chat de Twitch. Du coup, c'est le fait que tu précisais pas que c'était... Enfin, l'USB-C... Gen 2X2, ça ne veut rien dire. USB-C, c'est un type de connecteur. Et Gen 2X2, c'est le nom d'une norme d'USB. Et en fait, c'est deux choses différentes. L'USB-C, c'est vraiment un connecteur. Vous pouvez imaginer, il y a théoriquement, enfin, c'est pas exactement vrai, mais on va pour que l'analogie comprenne mieux et que vous puissiez vraiment comprendre la différence, on peut imaginer un port USB-C qui ne transfère pas de l'USB. Et en fait, si je dis une bêtise, ça existe totalement d'ailleurs. C'est le cas pour les ports, pour certains câbles et blocs qui font que de la recharge électrique, par exemple. Vous n'avez pas de transfert USB. Et donc, le câble ne suit pas la norme USB. Et le chargeur ne suit pas la norme USB, mais il gère l'USB-C, et c'est un port USB-C. Faut vraiment séparer le connecteur des protocoles de transfert de données. C'est pour ça que l'USB-C, enfin c'est vraiment tout l'USB-C a été conçu pour être indépendant de l'USB, et pour être un connecteur universel, à travers lequel vous pouvez faire passer du Thunderbolt, vous pouvez faire passer de la vidéo, vous pouvez faire passer du courant électrique, vous pouvez faire passer tout un tas de choses, vous n'êtes pas obligé de faire passer de l'USB. À l'inverse, un câble USB n'est pas forcément obligé d'être USB-C, donc c'est deux choses assez différentes. Voilà. Et d'ailleurs, on a pour vraiment clarifier cette différence, on a un dossier dédié, donc vous avez l'USB type A, l'USB type B, mini et micro USB, et vous avez donc le fameux USB type C, et on a un dossier dédié à l'USB type C pour vraiment comprendre ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de ne pas faire, etc. Donc attention, et d'ailleurs on parle par exemple, il y a la norme maintenant USB-C 2.1 qui n'a rien à voir avec l'USB 2.1. Voilà, pour vraiment garder les choses très simples évidemment, que tout soit clair pour tout le monde. Mais voilà, donc il faut vraiment garder en tête, une fois qu'on a bien conceptualisé le fait que l'USB-C et l'USB c'est deux choses complètement différentes, ça devient un peu plus clair en fait. C'est vraiment juste la forme du port et un certain nombre de règles à appliquer, mais voilà. Mais dis donc, on arrive à la fin de ce live. Du coup, j'ai pas pu finir. Alors, je vais quand même finir de blablater sur les ports, c'est intéressant, mais on peut finir un peu de blablater sur l'écran. Je vous invite à lire le test. On a pu tester le HDR, la calibration, etc. Mais pour dire quand même que c'est un excellent moniteur, d'une manière générale. Le souci, c'est quand même son prix, hein, 2 400 €. Il y a l'Alienware qui a 1 300 €, quoi. Donc, complicado, qui coûte deux fois moins cher. Donc c'est un peu compliqué de vraiment pouvoir le recommander pleinement. Et surtout, il est pas parfait. Surtout, en plus, on pourrait le recommander parce qu'il est quand même un peu vitrine et il a quand même des choses différentes que l'Alienware ne fait pas. Et notamment, il a une plus grande diagonale. Il a une meilleure fréquence d'affichage puisqu'il monte à 240 Hz. Mais il y a quand même des petits défauts, notamment l'impossibilité d'avoir un support VESA, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas remplacer le bras ou le pied fourni avec l'écran. Il n'est pas possible de le régler en hauteur. Et la densité de pixels est un peu faible parce qu'il fait 45 pouces pour du 3440 par 1440 pixels. C'est un petit peu un chouïa faible. On a un peu tendance à voir les pixels sur certains textes. On aurait aimé une meilleure définition d'affichage. Le débit et l'ampérage, tu passes 3 heures devant le rayon maintenant avant de trouver le bon câble. Je vais te dire que c'est l'intensité en français, l'ampérage. Voilà, l'intensité électrique qui s'exprime en ampères, contrairement à la tension électrique qui est en volts et la puissance électrique qui est en watts. Petit récap physique. Oui, bah, j'ai fait un bac S, hein, donc excusez mes déformations. Quoi. J'ai perdu tellement de points à pas plus me à dire ampérage au lieu d'intensité et tout que maintenant c'est gravé dans mon esprit. Alors que VESA sur un écran c'est quand même le minimum. Bah, ça permet de remplacer. Moi par exemple là sur mon bureau j'ai un bras de chez Amazon qui me permet de remplacer les pieds. Bah du coup j'ai l'Alienware QD OLED parce qu'il m'avait vraiment bluffé que j'avais envie d'avoir un bon écran. Donc j'ai claqué le livret A pour m'acheter l'Alienware. Mais l'écran, du coup effectivement j'ai remplacé l'écran par le pied par un bras Amazon parce que j'ai deux écrans et que du coup j'ai un seul bras qui gère mes deux écrans et surtout du coup j'ai plus rien de posé sur mon bureau. C'est un bras qui accroche l'arrière de mon bureau. Donc voilà. Ce qui serait bien, c'est le rappel systématique de la norme USB supportée sur le câble lui-même. On oublie avec le temps. Oui, je suis assez d'accord. Ce serait bien que les constructeurs appliquent correctement les sigles prévus pour vraiment pouvoir se souvenir de qui fait quoi. Et sur ces bons mots, mes amis, on va conclure ce live puisque ce live est de 9h30 à 11h et qu'il est 10h57, donc il va être temps de terminer. Pour faire la différence entre tout ça, faut imaginer un cours d'eau. L'intensité égale la largeur, la tension égale la pente. Et oui, la puissance égale le débit à un point T. Tout à fait. C'est tout à fait ça.
Est-ce que c'est tout à fait ça? Oui, c'est tout à fait ça.
J'ai un doute entre l'analogie sur la tension et l'intensité. Est-ce que c'est pas la tension qui est la largeur et l'intensité qui est la pente? Mais bref, en tout cas, l'idée générale est la bonne, en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est effectivement semblable à un cours d'eau. J'ai un petit doute, mais tu me poses une colle, du coup. 99,9% prennent le câble selon si sur la boîte c'est charging, fast charging. Je suis nul en électricité, donc j'aime bien me créer des histoires pour imager tout ça. On sent mon côté artiste. Oui. Ah, mais c'est une analogie en plus qui est souvent utilisée et qui parle à tout le monde, donc ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, il est 10h59, donc maintenant il faut que je conclue. Allez, Kassim, va conclure le live. Déjà, on va préparer un petit truc. Tac, hop, je vais regarder. Je sais à peu près, c'est déjà vers qui on va faire le raid, ou vers quoi plutôt. Et il va être pour moi l'occasion de vous souhaiter une très bonne journée. De vous souhaiter aussi un bon week-end puisqu'on est vendredi donc et puis j'ai vu que des gens étaient déjà en week-end donc parfait. Oh là là, en plus ça va être génial. Très bien. J'ai déjà hâte de vous voir sur le raid vers où je vais vous envoyer. Ça a l'air très cool. Et je vous rappelle donc c'est un live matinal de 9h30 à 11h du lundi au vendredi. Des fois le lundi on saute un petit peu, mais on vous fait un résumé de l'actualité tech au moins du mardi au vendredi entre 9h30 et 11h. Et n'hésitez pas du coup vraiment à follow, à nous retrouver sur frandroid.com. évidemment, on a aussi nos chaînes YouTube, on a Discord, on a moult choses. Voilà, c'est toujours très très agréable de pouvoir discuter. Là c'était cool ce matin, on a eu plein de super discussions sur l'IA, sur la réalité virtuelle et tout, donc c'était cool. C'était vraiment un bon live, je suis très content. Et donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et je vais vous envoyer en raid chez Mister MV. C'est un petit streamer qui commence, je sais pas si vous connaissez. Alors si je vous envoie sur cette chaîne, c'est parce que c'est Speedon ce week-end. C'est un événement caritatif au profit de Médecins du Monde avec des joueurs qui font des speedruns. Et là d'ailleurs on a un speedrun en ce moment sur Guacamelee, si je ne m'abuse, c'est même Guacamelee 2. qui est un excellent jeu à jouer en coop. Je vous recommande vivement si vous ne connaissez pas Guacamelee. C'est vraiment une pépite. Et donc moi, je vous... donc, n'hésitez pas à y aller. C'est un événement caritatif, ça fait plaisir. Vous dites bonjour au chat, vous dites bonjour à nous, vous dites bonjour de la part de Frandroid. Ça fait plaisir. Et moi, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.